Bienvenue à cet épisode mensuel des critiques de Yugi. Je suis votre animateur, votre critique. Je suis Yugi. Je suis en compagnie une fois de plus par Bedu.
Et moi.
Ainsi que Maryse.
C'est moi.
Et ce mois-ci, on vous parle de trois films qu'on a vus tout récemment. Deux en salle, un sur une plateforme numérique. Mais avant de continuer, vous connaissez notre tradition. Vous êtes sur une plateforme en train de nous écouter présentement. Vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Google. Google. Vous êtes sur Apple, vous êtes sur Balado, vous êtes sur peu importe la plateforme sur laquelle vous avez trouvé la critique de Yugi pour nous écouter. Il y a un petit bouton qui s'appelle abonner. Cliquez sur ce petit bouton. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup à aller chercher plus d'histoires par leur fameux système d'algorithme. Donc merci beaucoup de le faire. Sinon, il y a un petit bouton aussi pour télécharger les épisodes. Ça aussi, ça nous aide. Et sinon, il y a un petit rating d'étoiles. Donc donnez-nous des étoiles. C'est très important également. Sinon, nous avons également une page Facebook qui se nomme tout simplement La Critique de Yugi. Donc faites une petite recherche sur Facebook. Trouvez notre page. Abonnez-vous. Et surtout, partagez les publications que l'on fait. Ça nous aide beaucoup à aller chercher d'autres auditeurs qui n'auraient peut-être pas pensé à aller écouter notre podcast. Donc merci beaucoup d'aller sur la page Facebook pour le faire. Maintenant que c'est fait, j'ai donc mentionné qu'on parlait de trois films. Les trois films seront Damsel sur Netflix. Ensuite, on parlera de Ghostbusters Frozen Empire qui est en salle, suivi de Godzilla X Kong The New Empire qui est également en salle. On commence donc par le tout premier disponible sur Netflix, d'une durée d'1h54, un film de 2024 qui est sorti en février.
Je sais pas la date exacte, mais 2024. Ouais, il y a pas beaucoup de jours.
Ouais, ça me semble février. Damsel, version originale, version française, La Demoiselle et le Dragon.
Bien sûr. Hein?
On sait très bien que Damsel se traduit par La Dame et le Dragon. Bref. C'est un film réalisé par Juan Carlos Fresnadillo.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est bien mon nom, c'est.
Bien connu.
Qui a également, oui, très connu, l'un des derniers, entre guillemets, gros films qu'il a réalisé, c'est Intruders en 2011. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'Intruders? Je le sais pas plus.
Mais moi, 2011,
mais c'est 2011, sa dernière grosse réalisation. Sinon, avant ça, c'était le film 28 semaines plus tard, qui datait de 2007, film de zombies.
Oui, oui.
C'était bon, ça.
Donc, voilà. Donc,
il y avait 28 Days Later, là, c'est 28 Weeks.
28 Weeks, c'est ça.
Ouais, c'est comme l'autre d'après.
Ouais, donc Juan Carlos Fresnadillo. Et c'est écrit par Dan Mazzo, qui a écrit l'excellent Fast and Furious X en 2023, ainsi que l'excellent Wrath of the Titans, La Colère des Titans,
oh, c'est bon.
En 2012. Donc, on a... On a un réalisateur quand même so-so, un scénariste quand même so-so pour le film Damsel. Tiens, Maryse, parle-nous du film Damsel. Qu'est-ce que ce film?
Je dirais l'histoire classique de la Dame et du Dragon. On est vraiment dans le médiéval fantastique. Où est-ce que on sacrifie des demoiselles à un dragon pour acheter la paix et pouvoir vivre dans un royaume qui est absolument somptueux et sans problème ni alimentaire, ni habitant, ni maladie et quoi que ce soit.
Parce que tout le monde sait que c'est un dragon qui permet de faire ça.
Ben, c'est une histoire fantastique, ouais. Je te rappelle.
Hein, ouais, mais les
dragons n'existent pas.
Quoi?
Non, mais on peut bien l'interpréter comme ça nous tente. Puis eux autres qui ont décidé que de faire un pacte avec le dragon, c'est ce qui faisait qu'ils pouvaient vivre là sans problème. C'est peut-être pas le dragon qui fait qu'il se passe tout ça, mais le dragon avait clairement bien choisi son spot pour vivre.
Ouais, mais tu sais, si le dragon il détruit tout, si t'apaises sa colère, ben il détruit rien, fait que là tes cultures vont bien.
Ouais, ok.
C'est vrai.
Fait que c'est ça. Et en fait, moi, pourquoi je suis tombée là-dessus, c'est parce que j'ai reconnu l'actrice qui faisait Elona...
Elona Holmes.
Ouais, c'est ça, Elona Holmes. Que je vais être comme, je trouve tellement qu'elle a une bouille sympathique, cette fille-là. Je vais l'écouter voir. J'espérais qu'elle ne parle pas à la caméra comme 11, que j'étais contente de savoir qu'elle ne faisait pas. Puis je dirais que l'ensemble des personnages m'a pas déplu. On fait un clin d'œil à la belle-mère, on fait un clin d'œil au prince charmant, on fait un clin d'œil à plein de classiques, mais avec une tournure que je dirais plus à propos pour les temps d'aujourd'hui, qui est elle va se débrouiller. Que c'est ça.
Oui, parce que le gros de la prémisse, c'est sur le personnage d'Elodie, qui est joué par Millie Bobby Brown, qui se fait sacrifier dans la montagne du dragon, puis que finalement, elle survit, elle se bat pour survivre, elle se bat contre le dragon, elle se bat contre la méchante royauté qui a voulu la sacrifier. C'est ça l'histoire.
Puis Steve t'a mal avec elle quand elle a mal.
Oui. Oui, parce qu'elle mange des bonnes volées.
Oh!
Ben, comparable un peu à oui. Tomb Raider dans les
oui.
dans ben, le film
elle,
là,
oui, elle fait bien comprendre là, oh, oui. C'est...
surtout au niveau des brûlures tu sens ces brûlures également
oui
là.
Oui oui j'étais comme contente qu'il la sauvegarde pas trop là, tu sais qu'elle puisse subir
même si je parlerai tout de suite d'un léger point négatif que j'ai trouvé la dernière scène sans rien divulgâcher. On voit Elodie sur le bateau avec aucune blessure.
Oui, mais c'est peut-être longtemps après.
Ça avait pas l'air d'être si longtemps après que ça. T'sais, à un moment donné, dans la scène, on voit vraiment qu'elle est brûlée au niveau du haut du chest.
Ouais, mais là, faut que tu te
rappelles. Puis que là, elle est en robe. Puis qu'elle. Ouais, ok, en tout cas.
Non, t'as des petits bébés bleus qui peuvent être réparés. Là,
ouais, ok.
C'est vrai.
Encore une fois, les dragons n'existent pas. Et des petites bébites bleues non plus qui soignent tout. Fait que c'est possible.
On va parler des autres acteurs vite. Il y a beaucoup d'autres acteurs, mais pas des acteurs très très connus. Il y en a deux autres surtout qui sont très connus. Angela Bassett, qui joue le rôle de la belle-mère, qui elle, on l'a vu dans Black Panther, un amateur de films de Marvel. On l'a vu dans la série 911, on l'a vu dans American Horror Story, et on l'a vu dans plein d'autres films que je nommerai pas tous parce qu'on a. Hein?
C'est pas 4 heures.
L'épisode dure 1 heure, faut couper un peu. Et sinon, on a Robin Wright,
ouais.
Qui fait Queen Isabel, qui a joué dans Forrest Gump et dans Princess Bride. Donc, c'est comme si elle avait gradué de son rôle de Princess Bride à son rôle de.
Ah, mais moi, je l'ai reconnu dans Reine. Wonder Woman.
Ah, aussi.
Faisant Antiope dans
aussi,
Wonder Woman.
Moi, ça a été surtout. Ah, Princess Bride. Ça a été mon déclic pour Robin Wright. Et il y a d'autres acteurs, mais pas de très, très gros renom en matière d'acting. Hugo, tes commentaires?
Honnêtement, je me questionnais et je me disais, dans la catégorie film fantastique, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans les dernières années. Dungeons and Dragons, là, qu'on avait critiqué un peu, là, qui a un peu le style fantastique, mais il y a d'autres qui prenaient vraiment la pseudo-branche Dungeons & Dragons. Sinon, là, j'essaie de me remémorer qu'est-ce qui avait été fait dans le style. Si je remontais un peu à Dragonheart avec Sean Connery qui faisait le dragon, puis je me disais, il n'y a rien qui a été fait dans ce type de film-là depuis longtemps. Fait que ça m'a plu. C'est quand même bien. Dans certains plans de caméra, on voit l'écran vert là, quand ils sont sur le haut d'une montagne. Tu vois que c'est. Sinon, le reste des effets spéciaux, ça vole. Le dragon, c'est bien fait. C'est pas trop 1983. Ça me plaît. Moi, le seul point qui m'a un petit peu dérangé, c'est le casting de Millie Bobby Brown, qui fait encore un peu comme Enola Holmes, qui est l'espèce d'actrice féministe, héroïne. Elle joue bien son rôle, puis c'est écrit correct, mais je trouve que c'est juste de reprendre la même actrice qui rejoue le même rôle. Je me questionne à long terme, est-ce qu'elle va toujours être castée pareil?
Ben, même temps, c'est comme je te disais hier, c'est probablement elle qui choisit ses rôles, qui aime jouer ce type de rôle-là, puis je pense qu'elle va les jouer aussi longtemps qu'elle va vouloir les jouer. Puis...
Ouais. Je trouve qu'avec ça, elle a quand même un accent qui ressemble. T'sais, je trouvais que ça, les personnages se ressemblaient. Fait que ça m'a un peu dérangé pour ça. Sinon, le principe là, qui sacrifie, tout ça va. Là, c'est très prévisible sans être ennuyant.
En effet.
Tu sais qu'elle va s'en sortir, mais tu fais pas comme « Ah, ok, ouais, mais il se passe rien. » Tu sais, tout le long, il y a quelques twists, tu fais « Ah, ok, ouais, c'est, j'avais peut-être pas pensé à ça, puis ça, c'est bien, j'en parlerai pas, mais à un moment donné, là, avec le reste de la famille, tu fais « Ah, ok, c'est intéressant, tu sais, la belle-mère, des fois, tu te demandes, le classique de la belle-mère est bien joué aussi. »
Puis il n'y a pas eu de moment, comment je dirais en français, en anglais, « stretched », de ouais. Genre de pousser vraiment que tu dis ouais, non, même moi ouais, c'est ouais. Ça même pour un film fantaisiste j'y crois pas là, tu sais il y a pas eu de moment comme ça t'sais.
Non
je pense bon. Que toutes les scènes ont bien découlaient bien les unes des autres puis expliquaient bien les scènes d'avant
oui le principe de base
le montage en matière de scène est bien fait, il y a rien de farfelu
là. Non puis le principe de pourquoi elle est là, c'est son père qui l'a fait marier avec un prince pour que leur région soit s'en sorte parce qu'ils ont des difficultés avec le financière puis avec la récolte, mais tu sais, c'est quand même, ben, je vais dire crédible, mais pas tant, mais oui, si on veut transposer à ce qui se faisait dans le passé, mis à part les dragons, tu sais, on veut assurer la pérennité de la région, ben, on va marier notre fille avec un prince, puis ça va, là, tu sais, c'est quand même bien amené, et la façon dont elle le prend, ça, j'ai aimé ça, que ça soit pas... Ou à mes dépens, puis non, je ne veux pas même. C'est comme, je comprends, puis je vais le faire, tu sais, pour le bienfait. Mm-hmm. Je pense que je spoil rien en disant ça. T'sais. Oui, j'accepte. Okay,
ouais, si tu vois dès lors que le personnage a une tête sur les épaules oui. Et pose les questions que le personnage a besoin de poser pour être bien dans cette situation-là.
Oh, oui, c'est intéressant.
C'est pas juste, OK, c'est beau, vous voulez que je me marie, je vais me marier, puis je vais fermer ma gueule.
Non.
Elle pose quand même des questions, puis elle se démarque en tant que princesse dans le personnage.
Là. Oui.
Moi, je vais emmener une autre ligne à votre critique. Il faut savoir que dans, je dirais, l'histoire de l'imagerie, le dragon représentait les règles de la femme et pourquoi que la majorité des images où est-ce qu'une femme, une damselle en détresse était aux prises d'un dragon, elle semblait toujours mieux avec le dragon qu'avec l'homme et c'est l'homme qui avait peur du dragon, donc peur des règles de la jeune fille. Et j'ai vraiment aimé qu'on a respecté cette image-là du... dans le fond, là-dedans. Donc, on amène vraiment l'idée qui était à la base un peu éducative, là, tu sais, mis à propos. C'est sûr que quand on sait pas ce côté-là de l'histoire, on le remarque probablement pas, mais c'était vraiment un peu en représentation des problèmes que la jeune fille allait rencontrer, de la souffrance qu'elle allait vivre... de la délivrance de, tu sais, d'essayer de faire part et d'accepter cette bête, si on veut, donc d'en faire son allié plutôt que d'en faire son ennemi. Et c'était littéralement ça, l'étymologie de ces images-là à l'époque. L'homme servait en fait absolument à rien, même déjà à cette époque-là, dans cette histoire-là, à part être absolument outré et dégoûté par le fait que le dragon saignait de la gueule. Donc, c'était vraiment... J'ai aimé ça, cette espèce de clin d'œil-là à quelqu'un qui connaît un peu l'histoire en arrière de tout ça, va pouvoir faire comme, OK, c'est chouette, on a pensé à ça.
En effet, c'est une très, très bonne remarque.
C'est même au point que...
C'est un côté que je ne connaissais pas non plus. Donc...
C'est même au point que sa jeune sœur n'intéresse pas le dragon. Parce qu'elle offre probablement pas encore ses règles. Donc le dragon ne s'intéresse pas à elle.
Ça serait intéressant de savoir si les réalisateurs et les écrivains ont vraiment pensé à ce côté de l'histoire, ou ouais. Ce n'est qu'une simple coïncidence.
S'ils se basent sur ce qui a été fait avant, c'est souvent quelque chose qui revient. Fait que tu sais, s'ils sont inspirés des
oui,
autres
mais
films dans le genre.
Ici, ils sont peut-être inspirés des autres films dans le genre, mais j'ai. Mon instinct cinématographique me dit que. Ces écrivains-là d'aujourd'hui ne connaissent même pas ces histoires-là. Ils font juste se baser à ce qui a été fait avant, puis finalement, on finit par leur dire « Ah, ils ont pensé à ça, mais ont-ils réellement pensé à ça? » Ou ils ont juste fait ce qui a déjà été fait dans le passé, puis qu'ils l'ont ramené au nouvel ère. C'est plus ça, je pense, mon point à moi. Je ne sais pas à quel point le réalisateur et les écrivains ont pensé à ce côté de l'historique-là. du dragon puis de la princesse.
Ben moi, je veux rappeler que le gars qui a écrit le scénario a écrit
Fast and Furious 10. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, je suis comme... Tu sais, je suis content de l'avoir appris. Moi-même, je le savais pas. Puis j'ai vraiment l'impression que l'écrivain ne connaissait même pas cette étymologie-là de l'histoire des dragons et de la princesse.
Écoute, on le sait pas.
On le connaît pas.
On le connaît pas personnellement. On le connaît pas personnellement. Non, je
Il y a un point que moi que j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas pour vous, chez vous, comment c'était, mais pour moi, chez nous, toutes les scènes qui se trouvent dans la grotte sont très sombres. Et parfois, moi, sur ma télé, j'avais de la misère à bien voir ce qui se passait à l'écran. Il y a un certain moment où j'ai dû un petit peu augmenter ma luminosité parce que je perdais des bouts, je perdais du visuel. Ça, moi, ça m'a gossé.
Non, moi, je ne m'a pas. Puis je suis assez critique, là, les gens qui suivent les critiques, là, quand il fait noir et qu'on voit rien, ça m'énerve. Là, ça m'a pas. Ça m'a pas frappé, fait que mes settings devaient être corrects.
Peut-être, parce que c'est ça. Moi, il a vraiment fallu que j'ajuste mes settings pour bien voir les scènes dans la grotte, parce que il y a vraiment des moments où fallait que je me concentre à l'écran pour vraiment bien voir ce qui se passait. J'en perdais des bouts des fois. Donc, si jamais vous écoutez le film et que vous aimez ça, avoir peut-être une luminosité un petit peu plus basse, slash normale, peut-être la monter un petit peu de 2-3 coches, juste pour être sûr que vous voyez bien, parce que moi, ça m'a gossé un peu. Musique, Hans Zimmer. C'est quand même Hans Zimmer qui fait la musique de Damsel, qui est un compositeur très connu en matière de cinéma surtout. Et je pense que la musique se reflétait beaucoup à son style également. J'ai reconnu plusieurs de ses styles dans la musique du film. Donc ça, j'ai quand même beaucoup aimé. Tu as d'autres choses à dire sur Damsel?
Pas vraiment.
Passons aux critiques à ce moment-là.
Oui.
IMDb. Sur 67 000 reviews, c'est quand même beaucoup, beaucoup de reviews. C'est un 6.1.
Mm-hmm.
C'est correct. C'est une note peut-être légèrement en dessous de leur normale.
Moi, je trouve ça va un peu.
Mais c'est pas si mal. Metascore lui donne un 46 sur 100. C'est très, très bas. Rotten Tomatoes sur 120 critiques, ça se termine avec 57%. Et sur l'audience, 2500 et plus reviews, 61%.
Pour vrai? Bon.
Ça se résume beaucoup à du 6 pour la majorité des critiques. Moi, je veux donner un 7. J'ai bien aimé, mais j'ai pas capoté. Mais j'ai apprécié. Je l'ai écouté une fois. Je suis content de l'avoir écouté une fois. Mais tu sais, j'en parle là. Probablement que j'en parlerai plus jamais. Moi, c'est un 7.
Ben, je vais aller avec 7 aussi. J'essaie de voir. Là. Je pense aux autres films qu'on va noter. Ouais, je vais dire un 7.25.
0.25?
On a un quart d'étoiles aujourd'hui.
OK.
Non, c'était bien, comme je disais, dans le style. Il n'y avait pas grand-chose qui a été fait dernièrement, puis je l'ai apprécié. Honnêtement, tu,
ça faisait du bien un peu d'avoir ce genre de film-là. C'est contrairement aux films qui sortent tout le temps de remake et de ouais. redo et de films d'action.
C'est ça, c'est une nouvelle... un film original, une création originale qui n'est pas un remake ou une suite de quelque chose. Parce qu'on en parle des deux prochains.
Oui.
On parle exactement de ça. Donc, dans l'original, puis dans la production Netflix, parce que c'est fait par Netflix, des fois, ils vont couper les coins ronds au niveau du budget de production, puis ça paraît. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis le paquet pour la qualité de production. Ça paraît bien. Fait que c'est aujourd'hui 7.25.
D'accord.
Ben...
Excusez.
Écoute, moi, je vais être un peu plus généreuse, même si on ne semble pas croire à ma théorie de la Dame et du Dragon. Hein. moi, je dis, c'est peut-être un peu comme les films d'horreur. Tu sais, t'as comme une règle, tu sais, que ça te prend la vierge, le con, la droguée, l'ingénue et tout. Mais on a quand même été joué là-dedans, ce qui m'a beaucoup plu. Fait moi, j'irais plus avec un 8.
Ben, c'est correct. C'est très bien. Respecte ça.
Absolument. Je trouve que c'est ça. C'est un beau clin d'œil. Une belle leçon sans te dire que c'est une leçon.
Sans te le forcer dans le gorge.
Exactement. Sans te dire, on est en train de t'apprendre quelque chose. C'est si t'es au courant que ça servait à ça, tu vas le comprendre. Si tu n'étais pas au courant que ça servait à ça, cette histoire-là, ben tu vas juste avoir une héroïne à aimer et vouloir un épée pour taper sur tout dans la maison.
Voilà.
Oui, c'est ce que j'ai fait toute la fin de semaine.
Oui, mais tu n'as pas besoin d'un film de même pour faire ça.
Non, je t'assure.
Il le fait par lui-même.
Oui.
Donc voilà, disons 7.6, à peu près, sur 10, pour oui. Damsel, disponible sur Netflix. Si on vous a donné le goût d'aller l'écouter, tant mieux. Sinon, ben tant mieux, c'est 30 secondes de moins à chercher quoi écouter sur Netflix.
Mm-hmm.
Prochain film à l'affiche de notre épisode, on parle de Ghostbusters Frozen Empire, ou en français, SOS Fantôme, la menace de glace.
L'empire de glace que je
Ah, moi sur IMDb, ça me disait la menace de glace.
Ah, regarde, il y a IMDb là, l'empire de glace.
Ah, moi, ça me disait vraiment la menace de glace tantôt.
Écoute, ils l'ont changé overnight.
Et voilà, film qui vient tout juste de sortir il y a 2 semaines, oui. Film d'1h55. Réalisé par Gil Kinnan, qui a réalisé avant ça un excellent film en 2021 du nom de A Boy Called Christmas. J'étais sarcastique en disant excellent film, je n'ai pas vu le film, je ne savais même pas que ce film existait.
Ah, moi je l'ai vu.
Ah, ok, d'accord. Est-ce que c'est un excellent film?
C'est un bon film de Noël écouté en famille.
Ah, ben voilà.
C'est une approche absolument différente de Noël.
D'accord. Il a réalisé sinon aussi Poltergeist en 2015, donc c'était un remake évidemment des originaux, et ainsi que City of Ember en 2008, que tout le monde a vu bien évidemment.
Ouais, mais il avait été scénariste sur Afterlife. Donc,
il avait été en effet scénariste sur Afterlife.
Le lien est là, il avait travaillé sur...
Et il a été scénariste également sur Frozen Empire, oui. En compagnie de Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman, qui est le scénariste original des Ghostbusters originaux. Jason Reitman avait également scénarisé le film The Front Runner en 2018. Ça me dit pas grand chose, mais c'est. Il a pas scénarisé grand chose en fait. C'est il commence à peine sa carrière il y a quelques années.
Il s'est fait connaître en réalisant Afterlife. Là.
Ouais, c'est ça. Ça met en vedette tout plein d'acteurs qu'on a déjà vu dans Ghostbusters Afterlife, qui se voulait la suite de. Du vrai Ghostbusters 2. On ne parle pas de Ghostbusters le remake. On oublie Ghostbusters remake avec les filles.
Avec Chris Hemsworth.
On oublie le film oui. avec les filles.
Absolument.
Afterlife se voulait la suite de Ghostbusters 2. Donc Frozen Empire est la suite d'Afterlife. Donc Paul Rudd reprend son rôle de Gary. Carrie Coon reprend son rôle de Callie
Spangler
qui était la fille de Spangler dans les originaux.
Oui.
Finn Wolfhard reprend son rôle de Trevor.
Qui
a joué Finn a joué surtout dans Stranger Things, pour ceux qui apprécient la série Stranger Things, Finn a joué dedans. Mais Keena Grace, qui joue le rôle en guillemets principal de Phoebe, qui est la toute jeune, qui est la petite fille de Spangler, qui elle a joué dans Handmaid's Tale ainsi que dans I, Tonya. Kumail Nanjiani,
oui,
on a vu dans plusieurs films, c'est quasiment l'Indien classique qu'on voit dans les films partout pour interpréter un Indien, c'est souvent lui qui est pris. Il joue le rôle de Nadim, on l'a vu également dans le très merveilleux chef-d'œuvre qu'est The Eternals.
C'est drôle parce que quand tu commences une phrase comme ça, je sens l'ironie tout de suite venir.
On a également Celeste O'Connor qui joue le rôle de Loki qu'on a vu tout récemment dans Madame Web.
Bien sûr.
Elle jouait une des Spider-Girl.
Oui.
Logan Kim qui reprend son rôle de podcast.
Oui.
Logan Kim qui est un tout jeune acteur, c'est principalement le seul rôle qu'il a joué à date dans Afterlife et dans Frozen Empire. Et les originaux qui reviennent, Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson qui reprennent leurs rôles principaux des originaux Ghostbusters.
Bien sûr.
Il y en a d'autres que je n'aimerais pas parce que je veux garder certaines surprises, bien évidemment. Hugo, quelle est l'histoire de Ghostbusters Frozen Empire?
Ben dans le fond, c'est comme on disait, ça suit Afterlife. C'est la famille Spangler étendue avec Paul Rudd, là, qui était le prof de sciences de Phoebe dans le premier.
Mm-hmm.
Ils sont maintenant des Ghostbusters à New York. Ils ont repris la caserne.
Mm-hmm.
Et puis, ben ils sont vraiment les nouveaux Ghostbusters, ils ont repris du galon et ils font le travail que les précédents faisaient. Ça commence un peu dans une poursuite vraiment là, contre un fantôme. Classique Ghostbusters, ils vont détruire une partie de la ville de New York en essayant d'attraper un fantôme. Ils se font réprimander par le maire. Et le fait que Phoebe a 15 ans, elle l'est mis sur le carreau en disant t'es trop jeune pour faire la chasse aux fantômes. Et c'est là que elle, son histoire à elle va comme commencer un petit peu sur le côté pendant que sa mère, son grand frère et le chum de sa mère, dans le fond, là, Gary, vont continuer à chasser les fantômes. Arrive et libérer un fantôme méchant qui est une espèce de fantôme qui est enfermé depuis 100 quelques années, là, qui est enfermé. Ouais. Qui est...
Un ancien dieu qui s'est fait trahir par les humains de l'époque.
Puis il est enfermé, il va se faire libérer et lui contrôle la glace, donc d'où le Frozen Empire qu'on voyait.
En fait, non, il contrôle pas la glace.
Mais il contrôle les autres fantômes.
C'est la peur qu'il contrôle.
C'est ça. Mais ça fait de la glace.
Mais ça fait de la glace parce que t'as peur.
Oui, puis ils contrôlent les autres fantômes aussi pour faire face à ces trucs. Puis c'est ça, ils s'en vont, ils vont être libérés et eux autres, ben, le but c'est de le combattre. Fait c'est la prémisse du film, c'est comme ça que ça commence. Puis ben, que ça commence. C'est en gros l'histoire du film sans rien vraiment là. Divulgâcher.
C'est une très bonne description. Marie, c'est tes commentaires.
Ben, moi je trouvais que ça suivait bien le premier. Parce que j'ai écouté le premier...
Puis par premier, tu parles de Afterlife.
Oui. Non. Avec le premier de cette génération-là. Okay. Parce que je l'ai écouté presque en entier avant d'aller écouter le 2, juste pour me remettre un peu là, dans le bain des personnages puis de la relation que chacun avait aussi ensemble. Parce que ce côté-là m'échappait. Je me rappelais en gros l'histoire, là, mais... Le premier m'échappait un peu. Fait que pour moi, ça faisait comme juste la suite logique au premier. Mm-hmm. Et le premier faisait vraiment hommage au premier qui avait été fait. Et le 2 fait hommage aux 2 originales qui avaient été faits. Fait que pour moi, ça, c'était parfait. Tu sais, c'était pas... Je me dis, bon, mais s'ils veulent faire un 3, là, ça risque de pouvoir tomber dans l'originalité, vu qu'il n'y a jamais vraiment eu de 3 par la suite, ou peut-être que le père avait des idées et que le fils pourra exploiter par la suite. Mais je pense que le fils a vraiment fait hommage au travail à son père, en voulant rappeler aussi aux nouvelles générations qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir des parents gays qui leur ont fait écouter Ghostbusters, d'aimer tout ça sans avoir à passer par tout le processus de créer les machines, créer les trappes, essayer les affaires. On a tout en main, on y va all-in, mais on fait un savoureux clin d'œil à ce qui avait été fait avant avec le même genre d'histoire. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime tous les personnages, même ceux qui sont inutiles, comme dans les premiers qui avaient été faits, ben je les trouve intéressants pareil, parce qu'ils amènent une folie de plus, qui garde le fait qu'en tant qu'enfant, tu peux écouter le film en ayant un peu peur, mais pas trop peur.
C'est très bien dit. C'est très bien dit, puis c'est vrai que chacun des personnages a leur... Ils ont vraiment tous leur propre personnalité. Qu'ils soient des personnages principaux ou des personnages très secondaires, ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Puis ça, en effet, au niveau des personnages, je n'ai zéro rien à dire de négatif sur les personnages de la franchise même entière de Ghostbusters. Je pense que c'est ce qui a fait beaucoup aussi du succès des films, c'est justement les personnages, puis tout ce qu'ils amènent, tout leur côté, autant... stupide entre guillemets, autant super intelligent, autant super charmant, ils apportent tous, puis ils se complètent tous bien les uns les autres. Puis je pense que c'est beaucoup ce qui a contribué au succès de la franchise Ghostbusters. Je pense.
Oui. Ben moi je suis d'accord avec ça. Moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît dans un film, c'est qu'on prenne la peine de me présenter des personnages colorés et non pas un ramassis de ce qui est vu dans toutes les affaires. Tu sais, c'est vraiment... Puis j'aimais aussi que on fasse pas trop non plus l'étymologie « t'es un héros, donc t'es beau »,« t'es un héros, donc t'es parfait », tu sais, c'est... C'est comme, non, je veux dire, ils apprennent, ils font des erreurs, puis ils se sentent les coudes pareil. Tu sais, c'est vraiment tout dans l'humour et dans les clins d'œil à gauche et à droite, avec entre autres le glouton qui est là. Ça me faisait comme vraiment plaisir, parce que ça fait partie des personnages avec l'homme de Marshmallow, oui, qui faisait que petite, j'étais capable d'écouter ces films-là. Parce que je les aimais, eux autres.
Ça les rendait agréables. Ça
exact, exact. Fait que ça rendait la bibliothécaire moins épeurante.
Oui, en effet.
Ou les deux chiens.
Ou les deux chiens moins épeurants.
Moi, c'est eux autres qui m'avaient fait peur. Parce que le premier, 1984, fait que ça trahit mon âge, j'avais genre 6 ans. Fait que quand ça a passé à la TV...
J'avais 3 ans.
C'est ça. Mais quand ça a passé, j'avais peur des chiens. Donc, mon appréciation. J'ai bien aimé. C'est... Moi, on en reparlait, là. C'est littéralement un remake du premier ou à peu près, là. Parce que ça se passe tout à New York. Parce que, dans le fond, Afterlife, il mettait comme la table sur la nouvelle génération, avec la nouvelle famille, etc. L'histoire dans la maison, puis la transition avec Spengler, avec le grand-père.
Tout ça, en ça. Ramenant le méchant du premier.
Ouais, c'est ça. Qui faisait Zul, puis avec le cerbère de la porte.
Oui,
ça, tu sais, il amenait le l'histoire de Ghostbusters dans la nouvelle lignée. Dans celui-là, ça se passe... C'est très, très, très comme le premier. Où est-ce que l'original de 1984, où est-ce que le rythme est... Il y a quelques encounters, quelques rencontres de fantômes, tu sais, comme on voyait, puis tu as une espèce de méchant que tu vas affronter à la fin. Il n'y a pas d'espèce d'action de tout le long, puis ça explose
mais
partout.
Ça fait du bien, des
ouais,
fois.
C'est ça que je disais. Je m'en allais là. Où c'était bien, que le rythme est plus lent, on prépare les choses, on garoche pas. Des fois, on est beaucoup dans l'instantané, dans les films, il faut toujours que ça aille vite.
Là, on développe un petit peu plus les personnages.
Oui, mais c'est le lien qu'on faisait justement, là, qu'on apprécie les personnages. Moi, je trouve encore que Paul Rudd sert à rien. Je trouve qu'il est inutile comme personnage, mais ça, c'est mon avis. Je l'avais dit dans le premier, puis je le répète dans celui-là. Je trouve qu'il est...
Dans le premier, il me faisait beaucoup penser... au personnage de Philip Moranis.
Rick Moranis.
Ouais, OK. Qui n'avait pas servi à grand-chose à part devenir un chien.
Ouais.
Et encore là, dans Afterlife, à part devenir un chien, il sert pas nécessairement à grand-chose. Puis la mère faisait un petit peu penser à Sigourney Weaver, qui elle aussi était surtout là, bon, OK, pour la romance avec le personnage de Bill Murray, mais aussi pour la transformation avec le chien. Fait que Afterlife, ces deux-là servaient un peu à ça. Mais là, ils les ont ramenés dans Frozen Empire, puis ils ont essayé de les développer du mieux qu'ils pouvaient, parce que la mère fait pas plus vraiment grand-chose dans Frozen Empire. Là.
Non, mais elle assume... Le fait, c'est qu'elle, elle est la fille de, et elle n'est pas nécessairement un Ghostbuster. Elle joue pas au héros. Je trouve que Paul Rudd ressemble trop à Ant-Man. Il a le même type d'intonation, le même type d'énergie. J'aurais aimé qu'il joue un peu différemment le personnage.
Paul Rudd joue tout le temps comme ça.
Mais c'est ça.
Les films de Paul Rudd ressemble au personnage d'Ant-Man.
Ouais. Mais c'est pour ça que ça m'a dérangé. Okay. Il se démarquait pas. Il est comme générique, Paul Rudd. Mais bon, ça va... mis de côté. Visuellement, c'est bien, là, les effets visuels. Ils vont, à un moment donné, on voit d'autres types de fantômes où c'est vraiment bien fait. J'ai aimé l'approche de comment le méchant contrôle les fantômes, puis c'est quoi son plan. Là, je le dirais pas, mais son plan par la bande pour réussir à atteindre son but. Avec un personnage qui rentre, qui est dans le film. Mm-hmm. C'est quand même intéressant, j'ai aimé ça, c'est bien fait aussi. Ça va tout dans le rythme du film qui est bien. Je suis pas fan du personnage de Nadim, là, qui est comme un peu l'idiot. Je comprends le pourquoi ça a été fait comme ça, mais j'aurais peut-être pris un petit peu plus de sérieux sur ce personnage-là, mais sinon, globalement, j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié le film. Il y a beaucoup de clins d'œil à la nostalgie au niveau de la musique, au niveau des effets, des espèces de musique de background puis des effets sonores. L'ambiance, c'est quand même beaucoup de clins d'œil à nous qui avons écouté les originaux, qui connaissons les originaux par cœur, des personnages qui reviennent. Je trouve qu'on voit pas beaucoup Bill Murray. J'aurais peut-être apprécié le voir un petit peu plus.
Mais je pense que c'était voulu.
Ouais, c'est, j'imagine, c'est, mais...
C'est Bill Murray qui
oui, il en fait peu, là.
À la base, étonné de jouer.
C'est ça.
Il a accepté pour...
Pour la suite. Pour la mais suite. Les clins d'œil sont vraiment intéressants. C'est bien. Effets spéciaux, très, très bien. Ouais. L'ambiance musicale est... Le fun.
Voilà, ça, l'ambiance musicale nous remet vraiment dans le mood des Ghostbusters originales.
Oui. C'est une bonne, mais Maryse l'a dit, là, dans le, c'est une bonne nouvelle franchise pour les gens qui n'ont pas écouté les originaux. On est vraiment là, dans le on a la même recette, mais 2020. T'sais. C'est bien fait. C'est bien au goût du jour. C'est fidèle à l'original. Fait que ça me va. J'ai passé un bon moment.
Et j'ai honnêtement pas grand chose d'autre à rajouter.
Écoute,
ce que je rajouterais peut-être pour ma part à moi, puis c'est mon opinion personnelle à moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait plus aux originaux que Afterlife. Mm-hmm. Oui, Afterlife, il y a l'élément du méchant du premier qui revient, mais je trouve que ça l'apportait. Ça faisait la transition avec l'original et la nouvelle franchise. Mm-hmm. Donc, ça m'avait beaucoup moins dérangé que Frozen Empire, où je trouve vraiment qu'ils ont repris, à mon avis, trop d'éléments de l'original.
Il y a beaucoup de scènes qui ressemblent à l'original.
Beaucoup de scènes très similaires à l'original. Vraiment. Ce qui fait que j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de sa fraîcheur, oui, que Afterlife nous avait apporté. C'est, grosso modo, c'est le gros point négatif que moi j'apporte. Ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché d'aimer le film. J'ai eu du plaisir durant le film également.
Je relis mes notes et une de mes notes, c'est « J'aurais aimé plus d'originalité. »
Ouais, c'est ça.
J'aurais aimé, sans pousser trop loin, j'aurais aimé qu'on se démarque un petit peu
plus. J'aurais aimé qu'on mette plus d'accent sur ces nouveaux personnages-là qu'on nous a apportés dans Afterlife.
Mm-hmm.
Je trouve que j'enlève rien aux anciens. Je trouve qu'ils ont mis un petit peu trop d'emphase sur Dan Aykroyd.
Ils en mettent plus dans celui-là.
Ouais. Beaucoup plus d'emphase même sur une de ceux-là qui revient. Je ne veux pas la nommer, mais je vais garder les éléments de surprise. Mais d'autres personnages qui reviennent, je trouve qu'ils ont mis un petit peu trop d'emphase, mm-hmm, sur ces anciens-là au délaissement des nouveaux. Le personnage de Trevor, on le voit quasiment pas durant le film.
Il aurait pu prendre un lead plus grand à la place de Paul Rudd, entre
autres. Exactement. Oui. C'est cette petite... Son petit chasse à Slimy,
ouais,
sympathique, mais sans plus. J'aimerais, mm-hmm, ça qu'il en mette un petit peu plus sur lui, mm-hmm, quitte à en enlever sur les anciens. Ouais. C'est là un petit peu pour moi que ça m'a peut-être plus accroché. Si jamais ils en viennent à faire un autre encore, j'aimerais vraiment ça qu'on délaisse vraiment, qu'ils laissons de côté les anciens. Ils ont fait leur temps. Concentrons-nous sur la nouvelle génération et ce qu'ils peuvent nous apporter.
Mais la transition aurait pu être amenée par Trevor, dans le fond. Prendre le lead. Là,
absolument. Enfin. Absolument.
Non, ça a du sens. Non, c'est bien. Non, c'est un bon point. Je trouve ça intéressant.
Je voulais le mentionner, l'actrice Mikina Grace. Sur le coup, je me dis, OK, elle joue à un enfant de 15 ans. Mais genre, elle doit avoir 22, 25 ans. À 17 ans, elle va avoir 18 ans en juin. Donc, c'est une très jeune actrice. Et je pense que c'était audacieux d'aller chercher justement...
Ouais.
Une si jeune actrice pour faire un rôle aussi important dans une aussi grosse franchise.
Ouais, elle le joue très bien.
Puis elle le joue très très bien.
Il y a une partie du film qui passe par elle. Là,
ouais, ça a été, c'est bien fait. C'était un très 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 bon choix. Au niveau des critiques, allons-y tout de suite. IMDb, sur 16 000 reviews, 6.5. Ça reste dans la moyenne d'IMDb, mais ça reste que c'est quand même un peu bas. Metacritic lui donne également comme Damsel un 46. Rotten Tomatoes sur 255 reviews, ce qui est beaucoup plus que ce que Damsel avait eu,
mm-hmm,
44%, c'est très bas.
Et l'auditoire.
L'auditoire, par contre, sur plus de 1000 reviews, 83%.
C'est ça.
Donc on voit très bien que oui, la critique a peut-être été très critique au niveau de peut-être des points qu'on a parlé ici. Ce qui fait qu'ils ont plus ou moins apprécié. Et je sais que pour lire beaucoup de critiques. Je sais que les critiques sont tannées des remakes, sont tannées des suites, sont tannées de ce type de genre-là. Fait que dès qu'ils voient ce type de film-là, ils bâchent ouais, dessus très facilement.
On en parle souvent aussi, là, on dit, ouais, qu'il se fait des suites ou des remakes, mais les coûts de cinéma coûtent tellement cher, tu veux aller dans une valeur sûre quand tu es un producteur.
Voilà.
Puis même les gens, on le voit, là, quand on va au cinéma, ça se bouscule pas aux portes. Là.
Non,
il n'y a pas de line-up. Là. C'est les, ça coûte cher, une sortie au cinéma. Fait que quand tu y vas, soit que tu veux quelque chose à grand déploiement, un peu comme Dune, par exemple, tu sais que c'est un déploiement impressionnant, etc. Quand, ou quelque chose que tu dis, je vais aimer ça au moins, ça me fait sortir de la maison, mais je ne serais pas déçu parce que ça m'a coûté 82$ les billets de popcorn. Les billets de popcorn.
Non. Ben c'est ça, on le voit 83% justement oui. Avec l'audience. Les gens ont aimé, les gens ont apprécié. J'ai également aimé. Moi, je donne un 8 sur 10. C'est un film fort sympathique que j'ai bien apprécié, qui fait une bonne suite à tout le reste de la franchise. Est-ce que c'est le Ghostbusters de tous les Ghostbusters? Non.
Non, mais le 2 n'était pas non plus le
Ghostbusters. Le 2 Ghostbusters 2.
Il remplaçait pas le premier.
Pas du tout. Le, celui de 84, celui de 88, je pense que l'autre est sorti 89. Même que je dirais qu'il était borderline, c'est borderline, le pire de tous les Ghostbusters. Je parle pas de celui des films.
Ah, ben c'est ça.
Je parle de la franchise des 4 films principaux de la série.
Ben
de,
le Ghostbusters 2, 1989, c'est le moins bon
des 4. Je pense que c'est honnêtement de très loin le moins bon des 4. Oui.
Fait que tu sais, je pense qu'on a réussi à faire une bonne suite par rapport à ça. Absolument. Absolument. On part d'un film qui l'a eu tough, qui a pas comme levé autant. Fait que, écoute, moi, j'y vais pour un 8.5 pour ça, parce que j'aurais autant de plaisir à écouter le 2 qu'à réécouter le 1.
Absolument.
Ce qui n'était pas le cas dans le temps.
Dans le temps. Hein? Je suis tout à fait d'accord. Vas-y.
Je vais aller avec un 8 sur 10 aussi.
OK. Donc, voilà, un bon 8.25, 8.30. 8.33. Bref, autour de 8.3 pour Ghostbusters Frozen Empire qui est encore en salle présentement. Je vous suggère d'aller le voir. Si vous êtes amateur de Ghostbusters en plus, allez-y, ça vaut la peine. Si vous n'avez jamais écouté aucun Ghostbusters de votre vie, peut-être attendre à ce moment-là qu'ils sortent sur un réseau de streaming ou du moins écouter peut-être l'original de 84 ou à la limite Afterlife. Vous ayez une meilleure idée de ce qui se passe un petit peu. Je pense que si vous n'avez jamais vu la franchise, ne dépensez pas votre argent pour aller le voir en salle. Attendez qu'il sorte en site. Mais si vous êtes amateur de Ghostbusters, que vous les avez déjà vus, que vous savez c'est quoi, allez-y en salle, ça vaut vraiment la peine. Voir des méga... des beaux fantômes sur un grand écran, c'est quand même très sacré. C'est très agréable.
Because who you gonna call?
Ghostbusters.
Merci. Voilà.
Prochain film de cette critique, film également en salle qui est sorti tout récemment, vendredi dernier en fait, Godzilla X Kong The New Empire, qui fait suite à Godzilla vs. Kong, qui fait suite à d'autres films du Monsterverse, dont Kong Skull Island. Il y a eu un Godzilla versus quelque chose aussi, puis il y a eu un autre Godzilla.
J'ai fait mon timeline.
Voilà.
Je suis prêt.
Film du Nord 55 qui est en salle. C'est réalisé par Adam
Wingard,
qui avait réalisé Godzilla versus Kong également, qui a réalisé le film Death Note en 2017. Et les très excellents VHS et VHS 2
oui.
En 2012 et 2013. C'est, encore une fois, on est très sarcastique quand on dit que c'était excellent, c'était pas très bon. Ça a été scénarisé par trois personnes en fait. Terry Rossio, qui avait scénarisé Godzilla vs. Kong, qui a également scénarisé Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Également écrit par Simon Barrett, qui a écrit les fabuleux VHS. Ainsi que Jeremy Slater, qui a réalisé beaucoup d'épisodes de la série Umbrella Academy, qui a réalisé la série Moon Knight. Qui a scénarisé la série L'Exorciste. Et qui a également scénarisé le meilleur Fantastic Four de tous les temps, le 2015. Quoi qui était poche. Voilà.
Mais il a fait d'autres choses de bonnes.
Mais il a fait beaucoup d'autres choses de bonnes.
La série L'Exorciste,
heureusement. La série L'Exorciste, c'est très bon. Umbrella Academy, j'ai beaucoup aimé aussi. Moon Knight, c'est très bien aussi.
Moon Knight, moi, je t'en veux plus.
Fait que je pense que Jeremy Slater, c'est un très bon scénariste pour un film comme Godzilla, X-Kong, qui vont chercher un bon scénariste comme ça. C'est, quand même, c'est quand même surprenant. Au niveau des acteurs, quatre acteurs principaux. On a Rebecca Hall, qui joue le rôle de Aileen, qui reprend son rôle qu'elle jouait dans Godzilla vs. Kong. Brian Tyree Henry, qui joue le rôle de Bernie, celui qui fait le podcast, qui a joué dans Bullet Train quand même, et qui a également joué dans Godzilla vs. Kong.
Dan Stevens, qui joue le rôle de Trapper, qui lui n'avait pas joué dans Godzilla vs. Kong. Mm. Est-ce que Trapper joue? Est-ce qu'on avait on n'avait pas le personnage de Trapper? Il n'était pas là. Dan Stevens, qui a joué dans Downton Abbey, dans Beauty and the Beast, c'est lui qui faisait Beast.
Ah ben, toi.
Ainsi que dans la série Legion, qui était une série Marvel sur FX. Il jouait le personnage de Legion, c'est le fils de Professeur X. Mm. Bref, c'est Dan Stevens qui jouait ce rôle-là. Et on a la petite jeune fille, Kaylee Huttle, qui joue le rôle de Gia, qui reprend son rôle également de Godzilla vs. Kong. Maryse, tu n'as pas vu Godzilla x Kong?
Non, mais je me doute que c'est une histoire de monstre qui se tape sur la gueule.
C'est une très bonne réponse. Ben, Hugo va pouvoir nous présenter un petit peu plus quelle est l'histoire de Godzilla x Kong.
Comme Yugi disait, c'est la suite directe de Godzilla vs. Kong. Donc, on a appris dans Godzilla vs. Kong que Kong vivait dans les Hollow World, qui est comme sous la Terre, qui est comme un autre monde
parallèle à notre propre Terre, la Terre.
Et Godzilla vit sur la Terre, et lui, il protège la Terre des autres titans qui voudraient... il est comme l'espèce de protecteur de la planète, puis Kong est protecteur de l'humanité. C'est un peu ça ce qu'ils disent dans le début du film. Est-ce que tu veux que je fasse le timeline en premier ou je parle...
Parle de l'histoire en premier.
Mais dans le fond... ce qui arrive, c'est que dans Godzilla vs. Kong, ils vont ramener Gia, une jeune fille, qui était une des dernières, qui disent être la dernière résidente ou la dernière survivante de Skull Island, dans le fond.
Protégeait...
qui protégeait Kong. Elle est adoptée par le personnage de Eileen, Dr. Andrews. Et puis elle va ressentir des événements qu'elle pense être en lien avec Kong, justement. Et là, on apprend qu'ils ont comme une station de recherche dans le Hollow World qui fait le lien. Kong vit maintenant sa vie de gorille géant.
Il essaie surtout de retrouver peut-être des siens.
C'est ça. Puis il fait sa vie là dans son monde. Et à un moment donné, ben là, on se rend compte que Godzilla... a des comportements imprévisibles ou soudains. Ou est-ce que là, tu dis, OK, pourquoi là, soudainement, il fait
la mort soudainement beaucoup d'énergie
nucléaire. Parce que dans les films de Godzilla, on apprend qu'il absorbe la radioactivité. Puis il se met à en absorber plein sans trop vraiment de raison. Et d'un autre côté, la gang qui suivent Kong, donc Dr. Andrews, ils disent... d'après moi, il entend le message de détresse. On en déduit que c'est un message de détresse. Et il veut comme venir, il veut comme se préparer à jouer son rôle de protecteur. Donc, c'est un peu ça au niveau de Godzilla. Kong va lui...
découvrir le poteau rose.
Ouais, c'est ça. Là, je veux pas aller trop loin parce que ça vient de sortir, mais il va découvrir...
qu'est-ce qui s'en vient,
puis le pourquoi. Et là, on se rend compte que finalement, il faudrait que Godzilla et Kong fassent équipe pour venir contre cette menace-là.
Voilà.
C'est pas pire, ça?
C'est très bien.
Ouais. C'est résumé sans trop vendre
le pot. On passe d'un versus à un team-up.
C'est ça. Voilà. Mais au départ, ils s'affrontaient. Fait que là,
les deux s'aiment pas vraiment bien
non.
À la base.
Non, parce que le Godzilla, il défend la Terre, la planète. Fait que là, Kong est vu comme un titan qui vit. Fait que là, lui, il veut l'affronter, il veut protéger. On va reparler de ça.
Ça me fait rire quand on dit Godzilla veut protéger la planète.
Il décolle.
C'est qui détruit tout.
Mais c'est dans mes points. Là, je vais refaire le timeline un petit peu. OK, parce que j'ai plein de notes. Donc, on revient à... bon, Godzilla, ça date des années 50 au Japon. Là, je ne remonterai pas jusque-là. Je vais remonter 2014. Le film Godzilla avec Elizabeth Olsen. Et donc, c'est là que ce Godzilla-là...
le nouveau Godzilla du nouveau
d'où il vient. En 2014, ce film-là sort, l'histoire des missiles nucléaires, etc., etc. On apprend que là, Godzilla absorbe la radioactivité pour... il n'est pas vraiment méchant. Quand il attaque des trucs, c'est pour nous défendre. Après ça, Skull Island 2017, Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson. Je trouve ça très drôle. Mm-hmm. C'est de Branding Marvel qui a fait un film de Marie. Fait que... on est là-dedans, donc il découvre Skull Island. C'est là qu'on va avoir la prémisse de la petite. Godzilla 2019, King of Monsters. Des personnages qui viennent... là, on reprend pas les mêmes acteurs que dans 2014, c'est comme une nouvelle étape qui arrive. Et on fait quand même des liens avec Skull Island. Ce que je disais, le personnage de Bill Randa, qui a un lien avec Monarch Legacy of Monsters. Bill Randa est un des personnages principaux dans Monarch. Fait que tu sais, on voit qu'ils tissent des liens. Je pense qu'ils ont voulu tout attacher ça. Faut pas essayer de faire trop de liens avec ce qui s'est fait dans Godzilla, dans celui-là, Godzilla X-Con. Ils mettent ils tendent des perches, ils font des petits liens. La créature est la même.
Mais ce n'est pas 100% relié.
On est vraiment dans la suite de un versus l'autre.
Ouais.
Et puis, on a fait Godzilla vs. Kong en 2021 et Monarch Legacy of Monsters, dont j'ai parlé, qui, eux autres, essaient de présenter, dans le fond, d'où vient la compagnie Monarch, qui est comme une espèce de filiale du gouvernement américain cachée. Ils ont comme voulu voir d'où est-ce que ça venait, faire des liens encore avec le personnage de Houston Brooks puis Bill Randa, qui font comme des liens, disant ces personnages-là existent, puis d'où est-ce qu'ils viennent. En gros, là, c'est le même qu'on tisse. Parce que je me posais des questions. Ok, ouais, mais on apprend des affaires dans Monarch, mais c'est comme une petite branche parallèle avec quelques liens, mais on n'est pas vraiment, il faut vraiment se coller sur un.
C'est comme un petit bonbon supplémentaire qu'ils ont fait avec Monarch.
Ouais, c'est ça. Ils ont voulu faire un prequel.
C'est ça.
Ils expliquent parce que ça se passe après Godzilla 2014. Ça se passe dans le fond dans cette période-là, là, de vraiment l'attaque sur San Francisco. Le temps présent de Monarch Legacy of Monsters. C'est avant King of Monsters, juste avant King of Monsters. C'est vraiment là, on n'est pas en 2023, on est un petit peu avant, ça vient de se passer, l'histoire à San Francisco, puis on se remet de cette étape-là.
Voilà. Toi? Visuellement, c'est très beau.
Oui, oui.
C'est là, on demande à tous, on parle de Godzilla X-Con, là, OK? Ça fait que vos commentaires de « ouais, mais c'est impossible qu'un film comme ça arrive », on laisse ça à la porte, s'il vous plaît, c'est un film de monstre. c'est du irréel du début à la fin, là, OK?
Oui.
Mais c'est très, très divertissant. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ce film en salle. Il y a quand même beaucoup d'action. Il y a très, très peu de scènes où il se passe pas grand-chose. Il y a quelques scènes de blabla lorsqu'il rencontre la tribu. Mais c'est pas mal la seule scène principale où il y a un petit peu plus d'explications par rapport au reste. Le reste du film, c'est du bâchage entre monstres, avec les humains qui essayent de survivre à travers tout ça. C'est très plaisant, c'est très cerveau à off. J'écoute, genre regarde des monstres qui se tapent dessus. Comme je le dis, visuellement, c'est très bien fait, c'est très beau à l'écran. J'avais pas l'impression d'écouter un film des débuts années 2000 ou même à début 2010. Je trouve que le visual effect est très moderne pour un film de ce style-là. L'histoire est correcte, mais ça reste un film de monstres. J'avais pas besoin d'une histoire complexe pour apprécier ce film-là. L'histoire est simpliste et c'est correct comme ça. Les personnages humains sont là pour mettre des humains, puis c'est correct aussi. Ça, les humains nous permettent un petit peu plus de comprendre la gimmick et l'adversité entre Kong et Godzilla, puis leur raison d'être, puis leur raison de vivre. Donc ça humanise un peu ces deux personnages-là. Je pense que c'est la raison principale de toute la section humain de ces films-là. Il y a un personnage qui me gosse parce que c'est, on dirait que c'est genre un personnage passe-partout dans tous les films de monstres, le kid. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un film de monstre de ce style-là, il y a tout le temps un kid qui est là pour avoir une connexion avec un des monstres ou avec une connexion X qui explique un peu pourquoi le monstre fait, pourquoi c'est tout le temps un kid qui a ça.
Mais dans 2019,
c'est pas Godzilla, hyper c'était dérangeant, mais je trouve qu'à longue, ça finit par gosser, sortir un petit peu de ce modèle-là, ça devient redondant. Bien que l'actrice qui joue son rôle joue très bien son rôle, c'est une jeune enfant muette. Est-ce qu'elle est sourde? Je suis pas sûr. Je suis pas super précis si elle est sourde, mais en tout cas, elle est muette.
Ben ça, c'est un de mes points qui me dérange un peu. C'est qu'elle je comprends qu'elle communiquait par le langage des signes avec Kong dans Skull Island. Oui. C'est comme oui, mais elle pourrait parler au pire une langue qu'on connaît pas. Puis là, ça se passe longtemps après. Pourquoi que là, elle parle pas. On nous parle pas qu'elle est muette. On parle juste qu'elle.
Je sais pas.
Ça me gosse un petit peu.
C'est son seul moyen de communication, ouais. C'est par les signes. Tu sais, c'était un peu borderline inutile que ce personnage-là soit fait comme ça.
Ça l'amène à rien.
Ça l'amène à rien autre qu'elle est capable de communiquer avec Kong.
Oui.
C'est elle qui apporte, qui fait comprendre le message de détresse. De par ce qu'elle ressent, de par son ancienne tribu, ok, c'est correct, mais pourquoi une enfant? Ça aurait très bien pu être un adulte, mais encore là, on est revenu sur l'enfant. Pourquoi? Parce que ça rend le film moins épeurant, entre guillemets. Je comprends pas pourquoi il faut tout le temps que ça soit un enfant qui gère ça. Ça finit à la longue par me gosser un petit peu. Mais... c'est le gros point négatif que j'ai à apporter. Il y a un élément, on t'en est parlé hier, de la tribu justement qui découvre, qui contrôle la gravité, qui encore là, ça non plus, sert pas à grand chose dans l'histoire du film. Ça serait peut-être le deuxième gros point négatif que j'aurais apporté. Mais sinon, c'est hyper divertissant. Je le répète, c'est des monstres qui se tapent dessus, c'est drôle, c'est sympathique. Il y a des fois Kong il mange des coups, il donne des coups, puis t'es dans la salle, puis t'as mal pour le monstre qui vient de manger le coup. C'est juste drôle, puis c'est sympathique.
Je fais le tour de mes notes. La première, c'est ce à quoi je m'attendais, des monstres qui détruisent tout.
Voilà,
c'est ça. C'était ça mon désir en allant voir ce film-là. Ça va. C'est comme tu disais, visuellement, c'est quand même bien fait. Ouais. Ça reste que c'est principalement CGI.
Oui.
Parce que Godzilla, ça n'existe pas. Puis un gros gorille qui se bat avec ses poings tant que ça, ça n'existe pas non plus. Je vois le regard dubitatif de Marie, absolument, ça n'existe pas. Il y a quelques blagues qui m'ont fait sourire là, sans divulgâcher le Colisée de Rome, j'ai quand même ri. Il y a une petite blague dans le Colisée de Rome, avec le Colisée de Rome, ça me fait rire. On essaie de donner un côté humain à Kong. Ouais. Beaucoup de ses scènes sont sans dialogue, donc c'est lui avec ses réactions de singe, de sapien, qui fait, tu comprends l'émotion parce qu'on s'identifie à lui. Beaucoup de scènes de dialogue sont pour expliquer les trucs du côté de la Terre avec Godzilla. Ça, c'est un côté humain qu'on donne de plus. C'est quand même intéressant. J'aime le côté, là, vous allez dire, c'est niaiseux, c'est un reptilien de Godzilla. Là. Lui, il arrive, il nous défend, fuck les autres. Je fais ma job, si je détruis des choses, c'est plat.
Ben, mais... tu l'as dit un petit peu au début, Godzilla n'est pas là pour protéger l'humanité. Il est là pour protéger la Terre.
La Terre.
Fait que lui qui a des buildings devant lui, il s'en contre-calait, s'il rentre dedans, merci, bonsoir.
C'est ça. Dans mes points négatifs, on est parlé un petit peu de l'histoire du langage des signes, je trouve que c'est inutile. Au début, je peux comprendre, mettons, quand il trouve la petite fille, mais il est rendu, théoriquement, selon les dates de sortie, 7 ans plus tard. Ça fait pas 7 ans là, parce qu'elle a pas vieilli tant que ça, mais on aurait pu avoir une approche différente.
Ou du moins carrément nous dire elle est muette.
Ouais, c'est ça. Il l'assume comme pas, puis ça laisse un doute. Ouais, en effet, sans trop dire de punch, mais ils vont comme sous terre, il y a une sorte avec des gros cristaux pis ça. C'est pas nécessaire, ça sert à rien. Puis je trouve qu'ils ont comme voulu donner une espèce d'espèce d'avancement comme extraordinaire, qui servait à rien. C'est le rôle que ça prend dans le film est comme trop grand pour rien, je trouve.
Ouais, c'était du fluff.
Ouais.
C'était un petit peu trop de fluff.
Je trouvais que visuellement, ça détonnait du reste du film. Ça jurait. C'était pas genre... Des fois, ça fait comme une coupeuse, mais ça jurait avec le reste du film, qui fait que ça m'a dérangé. Je voyais pas la place de ça. Et dernière chose, je trouve que la tolérance à la destruction de la part des humains est assez grande parce que on l'a vu dans tous les autres films de Godzilla, même Godzilla vs. Kong. Oui, là, c'est au Japon, je crois, qu'ils sont. Et ils détruisent. Là, ils sont en Europe, dans plein de
villes. Ça détruit des ponts, il y a des chars qui en volent partout.
Je trouve qu'on est très tolérant. Je comprends que Godzilla, on faut vivre avec, là, mais on est très tolérant.
Ouais, vraiment.
Fait que des fois, je suis comme, ouais, ok, je comprends qu'on peut pas les détruire. Si on écoute tout ce qui se passe avant, on essaie de le faire exploser, ça marche pas. Mais j'étais comme, ok, mais voilà. On est très zen avec le fait que les dinosaures géants viennent tout péter, puis on est presque content qu'ils viennent nous défendre. Mais voilà, c'est mon, c'est mon humble avis par rapport à ça.
Je suis très d'accord. Écoute, passons aux notes tout de suite, bien parce sûr. Que je pense qu'on a pas vraiment d'autres choses à dire.
Non, je pense qu'on a bien un film de monstre, verbalisé.
IMDb, sur 14 000 reviews, on a un 6.7. C'est le plus haut côté des trois films qu'on a parlé présentement sur IMDb.
Mais là, il y a...
Mais ça fait 3 jours qu'il est sorti.
C'est ça.
Mais quand même, 14 000 déjà reviews pour un film que ça fait 3 jours qu'il est sorti, c'est quand même beaucoup. Meta lui donne un 46, qui est un point de plus que les deux autres. Rotten Tomatoes, les critiques sur 171 critiques, 56%. L'audience, par contre, sur plus de 2500 reviews, déjà pour un film que ça fait juste 3 jours qu'il est sorti, 92%. Au niveau de l'audience, c'est très très bien coté. Pour ma part, je donne un 8.5 sur 10. J'ai beaucoup aimé, c'est très plaisant, c'est très divertissant. Probablement que je le réécouterai éventuellement s'il repasse à la télé. Je peux pas aller plus haut que ça parce que c'est un film de monstre. Je donnerais pas un 9.5 sur un film de monstre qui tape dessus. 8.5, je trouve que c'est une note très très, très raisonnable pour ce film.
Alors moi, je vais aller avec 8 parce que je peux pas vraiment aller plus haut que Ghostbusters. T'sais, au niveau de l'histoire, c'est plus basic là. Mais visuellement, le divertissement, c'est comparable à ce que j'ai vu, ce que j'ai apprécié dans Ghostbusters. Ouais. Donc je donnais la même note, c'est-à-dire 8 sur 10.
Et voilà.
C'est bien, puis quand il va passer en streaming, puis que je vais le réécouter. Parce que j'aimais ça voir Kong avec son gros poing en métal là, qu'on voit dans la bande-annonce. Là. Il arrive, puis il y a comme une espèce de prothèse, là, puis ça fait super bien, puis il frappe fort, puis c'est cool.
Voilà. Donc Godzilla X Kong de New Empire en salle, un 8.25 sur 10, notre moyenne.
Oui.
Ça c'est quand on est juste là calculé. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez ce type de film, allez-y. Ça vaut la peine de le voir en salle sur grand écran. C'est quand même assez impressionnant au niveau des effets spéciaux. Voilà, ça fait le tour de notre épisode de ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié les critiques qu'on vous a faites. Si vous nous aimez pas, ben pourquoi vous continuez de nous écouter? Hein? Clairement, si vous allez écouter l'épisode jusqu'au bout, on a dit quelque chose d'intéressant, donc tant mieux. Prochain épisode, Capsule Express aux alentours du 10. Je dis bien aux alentours du 10, vous avez pu constater qu'on n'est pas nécessairement tout en train de sortir les dates précises. Mais aux alentours du 10 avril, Capsule Express.
Mais c'est comme des surprises. Tu vois la notification push, tu fais oh, il y a un épisode de sortie.
Exactement. Et l'autre Capsule Express le 20, suivi d'un autre épisode mensuel le 1er mai. Donc, on vous attend. On espère que vous allez écouter ces épisodes-là avec nous. Merci beaucoup à Bedu. Merci beaucoup à Maryse.
Ça me fait plaisir.
Et à tous, un gros merci également. N'oubliez pas d'aller faire un petit like ou un petit subscribe à nos podcasts et à notre page Facebook. Et on se reparle pour notre prochaine Capsule Express des critiques de Yugi. Merci à tous. Ciao à tout le monde.
Bye.